Monsieur Cyrus Sondji, bonjour.
Bonjour.
Dans quelles conditions les journalistes centrafricains exercent-ils leur métier en ce moment?
Nous savons que le 3 mai de chaque année est consacré à la liberté de la presse dans le monde entier. C'est donc la journée internationale de la liberté de la presse. Et à propos justement, pour notre pays, les conditions de travail des journalistes ne sont pas les meilleures. Mais nous ne sommes pas les seuls dans ce monde à avoir des difficultés. D'abord, je tiens ici à dire publiquement que fort heureusement, à cette occasion, on ne déplore pas le cas d'un journaliste qui est en prison, n'est-ce pas? Mais cela ne veut pas dire que tout se passe comme sur des roulettes. Nous avons beaucoup de difficultés et même si nous ne sommes pas emprisonnés, mais les menaces sont là. Les menaces sont là, on ne peut pas circuler librement pour collecter des informations dans certaines parties du pays. L'accès même aux sources d'informations dans certaines institutions, dans ce département ministériel est vraiment difficile. Lorsque vous allez pour avoir des informations, on pense que vous venez pour espionner, on pense que c'est elle qui vous oriente pour avoir des informations à étaler au grand jour. Alors tout cela crée des difficultés dans l'exercice de notre métier. Il va sans dire également que nous ne sommes pas aidés. Vous savez, l'an passé, cette année même, on n'a pas reçu de subvention de l'État et apparemment même cette subvention est supprimée dans la nouvelle loi sur la liberté de la communication, bizarrement, alors que c'était un droit acquis par rapport à l'ordonnance de 2005. Il y a des journalistes qui font l'objet de certaines plaintes, hein, même s'ils ne sont pas emprisonnés, mais quand je vois des leaders politiques déposer plainte pour des soi-disant infractions de diffamation contre des journalistes dans certains tribunaux et cours de la place, vraiment cela, ça me fait attendrir.
Vous avez déjà parlé des difficultés rencontrées par les journalistes sur le plan politique, mais qu'en est-il pour l'environnement technique du journaliste?
L'environnement technique est morose. Par environnement technique, j'entends même les supports de travail comme tels. On n'en a pas. Vous savez qu'il y a certaines rédactions, parle d'un cas que je connais bien, nous de la presse écrite, dans certaines rédactions qui font des efforts pour sortir les journaux quotidiennement. Ils ont à peine 2 ordinateurs, un ou deux, mais ils font quand même un effort pour sortir des informations. Et ce n'est pas seulement au niveau de la presse privée, même au niveau de la presse de l'État. Bon, j'ai entendu dire qu'il y a des studios là-bas qui ont été aménagés, machin, tout cela, mais tout cela, ça m'a fait sourire. Si je compare le montant engagé pour faire ces travaux avec la réalité existentielle, ça me fait sourire. Aussi bien au niveau du public que du privé, les conditions ne sont pas réunies. Sur le plan technique, les opportunités qu'on devrait nous donner pour recevoir des formations pointues, des formations ciblées, etc. Malheureusement, cela n'existe pas. On attend seulement des occasions, comme les élections par exemple, pour nous appeler et nous rappeler l'ABCD du journalisme, comment faire des reportages, tout cela, ça me fait sourire. Il y a des choses qu'on aurait dû préparer en amont.
Pour vous, c'est une occasion de rappeler la maison de la presse qui a été supprimée, où la presse nationale n'a pas un local.
Mais justement, quand on parle de l'environnement technique, si on avait une maison de la presse, maison de la presse du journaliste, comme par le passé, voyez, c'est à ce niveau même que l'État ou bien même les partenaires pouvaient nous aider à avoir des ordinateurs. Mais même si on n'a pas la maison de la presse et des journalistes, mais n'empêche qu'on nous donne l'opportunité d'avoir des outils de travail à proprement parler. Il y a des annonces qui ont été faites, il y a des promesses qui ont été faites. Bon, mais là, elles ne se concrétisent pas. Bon, pour nous, c'est gênant. J'en parle simplement, c'est pour rappeler aux gens qui ne doivent pas nous mentir. Sinon, rien à nous donner, qui ne nous fassent pas des promesses.
Vous voulez parler du gouvernement?
Non, seulement le gouvernement, la MINUSCA, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de Chine. Il y a beaucoup d'institutions qui ont fait des promesses aux journalistes 100 ans, mais malheureusement, ils tardent à concrétiser en tout cas leurs promesses.
L'information comme bien public, thème retenu cette année pour la journée mondiale de la liberté de la presse. La presse est-elle libre de faire son travail sans être inquiétée dans ce pays, M. Sandji?
Bon, en ce qui me concerne, moi, je me sens libre. Cette liberté, ça s'arrache d'abord. Cette liberté psychique, ça s'arrache. Moi, dans ma rédaction, je me sens libre. Quand j'ai des informations précises, quand j'ai des analyses à faire, je le fais sans avoir peur. Certains m'appellent souvent pour me dire, mais ton information-là est risquée, ton analyse est risquée. Mais je le fais en toute liberté parce que je suis convaincu que je suis dans la vérité. Et le journaliste, quand il sait qu'il est dans la vérité, il ne peut que prêcher cette vérité-là.
Malgré les menaces.
En tout cas, ça fait partie également des réalités du métier. Il n'est pas journaliste qui le veut. Si vous n'avez pas de la pointe, si vous n'êtes pas téméraire par moment, vous ne pouvez pas faire le travail de journaliste. Donc, au niveau de ma rédaction, je me sens libre. Mais souvent, il y a des confrères là, ils se plaignent, même ceux des médias d'État. Et j'en profite pour dire qu'il faut donner un peu de liberté aux journalistes du public. Ils ne sont pas libres. Eux-mêmes, ils ne vont jamais chercher des informations. C'est lorsqu'on les appelle, C'est-à-dire, c'est des informations qui viennent des officiels à destination de la presse. Ils peignent ça, ils diffusent.
Alors des informations institutionnelles.
Des informations institutionnelles, c'est tout. C'est tout. Mais chez nous, là, lorsqu'il y a des faits de société, par exemple, dans les marchés, etc., etc., c'est nous qui allons vers les informations. Vous voyez, notre information est souvent décalée. On ne donne pas l'information que tout le monde connaît.
Mais le vrai problème, monsieur Sandy, c'est à quel niveau pour le confrère de la presse publique?
C'est d'abord au niveau institutionnel. Apparemment, l'administration de la communication officielle dans ce pays fonctionne comme dans une prison. Vous n'avez que ça à faire, enfin j'allais dire dans une caserne quoi. Vous n'avez que ça à faire, vous vous mettez au garde à vous, c'est ça ou c'est pas ça, on vous sanctionne ou bien on vous met hors du micro et puis c'est fini. Mais le deuxième problème, c'est au niveau même des confrères eux-mêmes. Il faudrait qu'eux-mêmes fassent des efforts pour être une presse libre, parce que la liberté, ça s'arrache. Nous voyons nos confrères d'autres médias. La France, par exemple, lorsque un journaliste français prend le micro pour interroger le président français, le premier français, mais il inquiète même cette autorité. Mais chez nous ici, c'est interdit. Pourquoi? C'est une question de courage. C'est une question de professionnalisme.
Où en sommes-nous avec cette question du statut particulier des journalistes en Centrafrique?
Mais il n'y a pas de statut particulier. Je le regrette. Je le regrette d'autant que la loi numéro 20-021 du 21 décembre 2020 sur la liberté de la communication s'est amusée avec le statut du journaliste. Il n'y a rien de sérieux. Il n'y a rien de sérieux dans cette loi-là. Par endroit, on donne l'impression que on comprend, mais vous voyez, le statut du journaliste est lié à la liberté de la communication. La loi, c'est la loi sur la liberté de la communication. L'intitulé dit ce que ça dit. Ce n'est pas une loi sur la communication, mais c'est une loi sur la liberté de la communication. Cela sous-entend que ce qui est recherché fondamentalement, c'est plus de liberté de communication. Mais malheureusement, cela n'existe pas. Et c'est ça qui fragilise justement.
Parlons de cette loi sur la liberté de la communication centrafricaine, a été adoptée et promulguée par le président de la République. N'est-ce pas là une avancée significative?
Oh, quand on avance en reculant, ça n'a pas de sens. Hein. C'est pas parce qu'une loi est prise qu'on a plusieurs dit que voilà, ça y est, la loi est prise là, on a avancé. Non, on n'a pas avancé, on a reculé. Je prends quelques exemples. Hein. L'ancienne loi, si 40 soit-elle, elle a 40, elle a de ses limites. L'ordonnance de 2005, par exemple, avait déjà prévu la subvention de l'État accordée aux médias privés. Mais la nouvelle loi a supprimé cette subvention. Dans l'ordonnance de 2005, il y a l'article 77 qui dit que l'État subventionne directement ou indirectement les organes de presse privés indépendants qui contribuent à l'exercice du droit à l'information. Mais la nouvelle loi, qui devrait reprendre ne serait-ce que les termes de cette ancienne loi, ne l'a pas fait.
Est-ce que donc, vous n'avez pas été associé dans l'élaboration de cette nouvelle loi?
Non, je vous parle non seulement en tant que directeur de publication, mais je suis également le coordonnateur du réseau des journalistes centrafricains pour l'initiative La Ceinture et la Route, RJMCR. Nous faisons la promotion de l'initiative La Ceinture et la Route initiée par le président chinois Xi Jinping. Dans ce cadre, lorsqu'on s'était rendu compte que le projet de loi était liberticide dans certaines de ces dispositions, le bureau exécutif de cette association-là avait saisi le président de la commission communication et équipement de l'Assemblée nationale pour lui dire « Attention, vous ne pouvez pas adopter cette loi sans écouter les journalistes. » Et c'est ainsi qu'on a eu à appeler certaines comme ça. Mais nous-mêmes qui avions demandé à être reçus, on n'a pas été reçus.
Vous avez été écarté.
J'ai été écarté, l'association a été écartée. Et cette loi-là est en train de tuer les médias privés. Pourquoi? L'ancienne loi nous demandait seulement de remettre à 4 institutions, n'est-ce pas, les exemplaires de chaque parution. Au parquet, au conseil de la communication, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la communication, c'est tout. Mais la nouvelle loi a ajouté les archives nationales. C'est-à-dire, à chaque parution de journal, on doit remettre gratuitement 2 exemplaires aux archives nationales. Pourquoi? Est-ce que les archives nationales n'ont pas de l'argent pour acheter des journaux? Et là, ça fait déjà 10 journaux qu'on doit donner comme ça gratuitement. Et 10 journaux.
Sans subvention.
Sans subvention. Les 10 journaux que vous voyez, nous perdons 2500 fois par jour. Qui sait si c'est notre bénéfice du jour même que nous perdons comme ça? Il faut qu'ils aient quand même pitié de nous.
Des voix ne cessent de critiquer certains confrères de faire du griotisme en lieu et place du professionnalisme. Est-ce un problème d'éthique ou de déontologie, selon vous?
C'est tout ça. La déontologie signifie qu'il y a des choses que je dois faire. L'éthique, c'est la partie raisonnée de la déontologie. C'est-à-dire, si la déontologie me dit de faire cela, l'éthique va me dire, est-ce que c'est le moment de le faire? Est-ce que c'est opportun de le faire? Il y a des gens qui sont nés griots, excusez-moi. Ils ont du plaisir à faire la flagornerie, à chanter, etc., à la gloire du roi ou du prince, pour avoir de l'argent, etc. Ça existe un peu partout.
Mais ce qui inquiète, c'est que ces griots-là s'arrogent le droit, s'arrogent le titre du journaliste pour faire ce travail.
Oui, malheureusement, ils n'ont qu'à choisir à être ailleurs, parce que le journaliste qui perd sa raison, qui perd le sens de l'analyse, le sens du critique, n'est pas journaliste.
Monsieur Cyrus Sandy, merci.
C'est moi qui vous remercie.